merci Jésus pour ce culte que nous pouvons venir te rendre. Tu es notre Dieu Tout-Puissant et nous te remercions Seigneur Jésus pour ta grâce avec nous et pour ton enseignement qui nous donne d'aller plus loin avec foi et en relevant la tête et les cœurs. Merci Jésus de bénir ces quelques mots que je vais dire à mes frères et sœurs et que cela les aide. Merci mon Dieu. Amen.
Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Ça va tout le monde? Gloire à Dieu. On va lire Jean chapitre 14, verset 6. C'est un texte que vous connaissez bien. Jésus dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Oui, que c'est pas très long comme texte, hein, mais c'est très vrai. Je suis le chemin, la vérité, la vie, mes frères et sœurs. Je crois absolument que c'est vrai. Absolument. Et il n'y a pas 36 000 vérités. Il n'y a qu'une vérité. Seulement, il y a beaucoup qui n'ont pas compris la profondeur de cette parole de Jésus. Et ça reste pour eux une jolie phrase. Une jolie phrase. Oui, mais c'est plus qu'une jolie phrase. C'est d'une profondeur, c'est merveilleux. Jésus est le chemin, mais seul le courage de la foi en action sur le chemin permet que le chemin se manifeste. On se souvient tous de ce merveilleux film de Cecil B. DeMille, Les Dix Commandements, avec le beau Charlton Heston. Hein? On voit Charlton Heston, Moïse qui lève le bâton et la mer Rouge qui s'ouvre. Et le peuple de Dieu qui se met en marche à traversant la mer. On se souvient tous de ça, hein? C'est très beau. Ce moment-là, ce n'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Il faut revenir à la Bible, la parole de Dieu. Oh, on est un peu étonné quand on vient à la Bible, la parole de Dieu, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Je vous lis le texte. C'est dans Exode 14, 13, 16. Alors, les Juifs, ils rouspétaient, les Juifs. Enfin, on ne peut pas leur jeter la pierre, mais enfin, bon, quand même. Il ne faut pas prendre exemple sur eux. « Laisse-nous servir les Égyptiens, pauvres nazes, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et gardez et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Alors, en général, on s'arrête là. Et c'est très joli, c'est très beau, c'est vrai. C'est bien de garder le silence et de regarder comment l'Éternel fait et de rester en place. Seulement, voilà, Dieu, il reprend Moïse. Dieu, il reprend Moïse. Ça avait beau être le grand prophète Moïse, là, il y a quand même quelque chose de charnel dans ce qu'il dit. Tout prophète, il peut dire un truc charnel. Là, il leur dit, restez en place. L'Éternel dit à Moïse, mais pourquoi tous ces cris? Comme s'il ne savait pas. Mais pourquoi tous ces cris? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Vous comprenez? Moïse leur dit, restez en place. Et Dieu dit, avancez, avancez. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils pénètrent après vous dans le feu. Et vous connaissez la suite, c'est comme dans le film. Ah, mes frères et sœurs. Ce n'est pas tout à fait juste comme dans le film, comme il nous montre. Dieu voit et entend le peuple juif qui crie, qui se plaint, qui niouts, comme on dit en Suisse, qui rouspète. Ah là là, pour rouspéter, ah, il rouspète. Là-bas dans le désert, il n'y avait pas de porte où ils pouvaient rouspéter entre deux portes, mais s'il y en avait eu, ils auraient été entre les deux portes pour rouspéter, comme ils font ici. Ils ont peur. Oh là là, gni gni, Moïse, il n'est pas gentil. Nous emmener là, on va mourir. On préfère retourner. Gna, 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 gna. Moïse leur dit, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Restez en place. Alors Dieu parle, et en effet, il dit le contraire. En fait, quand Dieu parle là, c'est Jésus qui parle. C'est Dieu dans sa création qui parle à Moïse. Jésus était déjà le chemin. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, à cette époque, il était déjà le chemin, la vérité et la vie, n'est-ce pas? Il ne change pas. Je vous ai prêché au sujet de l'évangile éternel, vous disant que l'évangile de Jésus-Christ pour nous, c'est quelque chose. Mais il y a eu l'évangile pour Moïse, pour Noé, pour... Parce que chaque fois que Dieu a parlé à un de ses serviteurs, c'était une bonne nouvelle. Quand c'était une bonne nouvelle. Donc, il y avait déjà le chemin, il y avait déjà Jésus. Jésus dit à Moïse, dis-leur de se remettre en marche, c'est-à-dire, ne restez pas sur place, tu leur as donné un mauvais conseil, ne leur dis pas de rester sur place. Les Juifs s'étaient arrêtés devant la mer et ils criaient, bon, on peut comprendre, c'était quand même dramatique. Ils voyaient l'armée ennemie qui arrivait derrière eux. Les Égyptiens, ce n'étaient pas des rigolos. Hein. Ils avaient beau porter jupettes, ce n'étaient pas des tapettes. Hein. C'était grave quand vous aviez les Égyptiens qui vous couraient derrière et avec des épées. Et les pauvres esclaves, ils n'avaient jamais appris à se battre. Ils avaient la trouille et puis ils ne pouvaient pas aller plus loin. Il y avait la mer. Il n'y a pas de chemin. Il y avait la mer. Et Dieu n'ouvre pas la mer avant que le peuple ne se remette en marche. Voilà ce qui est écrit. Vous voyez, seul le courage de la foi en action sur le chemin qui n'existe pas permet au chemin de se manifester. Nous devons faire les pas de la foi. Nous ne devons pas perdre courage. Courage, fuyons. C'est ce qu'ils ont fait. Courage, fuyons. Ne pas rester là à pleurnicher, ne pas rester là à se rendre malade, ne pas rester là à crier, ne pas rester là à se plaindre. Ah non, jamais. Il semble qu'il n'y avait pas de chemin, mais il y avait un chemin. Il semble qu'il n'y avait pas de chemin, mais c'est faux. Il y a un chemin. Le chemin, c'est Jésus. Et il est toujours là, le chemin. Dans toutes vos situations qui vous semblent impossibles, Jésus est là, le chemin est là. Il ne faut jamais renoncer à l'enthousiasme des conquêtes. Il faut conquérir votre guérison, il faut conquérir votre délivrance, il faut conquérir votre faiblesse, votre force dans la faiblesse, il faut la conquérir. Moi, je me rappelle, dans les années 60, on ne disait pas « Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela ». Je me rappelle, on nous disait « Faut prendre la victoire, la prendre ». Ah, c'était autrement qu'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est une mode de pleurnicheur dans la mer. Renoncez pas à l'enthousiasme des conquêtes, du nouveau. Ça fait partie de la vie. Jésus est le chemin, mais il est aussi la vie. Jésus est la vie. Et l'enthousiasme des conquêtes réjouisse le cœur de ceux qui y prennent part, oui ou non? Bien sûr que oui. Quand on se met en marche et puis qu'on voit que ça marche, on est content. Vous savez, dans l'existence, si vous faites totalement confiance au nutritionniste, eh ben vous allez croire que tout est mauvais pour la santé. C'est vrai. Vous en écoutez un et vous dit « Ah, faut pas manger de sucre. Il faut pas manger de ceci. Faut pas. Ça, c'est cancérigène. Faut pas. » Eh ben vous les écoutez, mais vous mangez plus rien. Si vous faites totalement confiance aux théologiens, vous allez croire que tout est péché. Si vous faites totalement confiance aux politiciens, alors c'est même plus la peine. Vous allez croire que la sécurité n'existe pas, etc., etc. Faites confiance totalement à Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire confiance aux autres, mais pas totalement. Il n'y a qu'en Jésus-Christ que nous pouvons placer notre confiance totale. Il est le chemin qui se manifeste quand on ose se mettre en marche, alors que ça semble complètement idiot de le faire. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas faire confiance aux nutritionnistes, aux théologiens, aux politiciens. Je ne dis pas ça. Nous pouvons leur faire confiance, mais pas totalement. Enfin, aux politiciens surtout. C'est Jésus notre chemin. Si le chemin doit passer au milieu de la mer Rouge, on se met en marche et le chemin se manifeste. C'est bien de prier. Mais Dieu connaît déjà nos prières avant même qu'on les formule. Comment ça se fait que les chrétiens ne réfléchissent pas? Nos prières, elles servent juste à glorifier Dieu en présence de l'ennemi. Parce que l'ennemi connaît par nous la sagesse infiniment variée de Dieu quand nous Quand nous agissons, quand nous prions, nous montrons par là que nous faisons confiance à Dieu, nous le faisons d'une façon publique en face des anges, des démons et de tous les crétins lapins qui sont autour de nous. Mais oui, mes frères et sœurs, la prière, ça sert juste à glorifier Dieu en présence des autres, et particulièrement de nos ennemis. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Est-ce que nos prières nous rapprochent de Dieu? Ça, c'est une question. Eh bien, pour répondre en juif, je vais vous répondre à cette question en posant une autre question. Toutes les prières que vous faites feront-elles se lever le soleil demain matin? Non. Non. Le soleil se lève parce qu'il obéit à une loi divine. Ce qui doit arriver, arrive. Alors, nos prières sont-elles inutiles? Absolument. Vous allez me dire, mais Michel, qu'est-ce que tu nous prêches là? C'est épouvantable. Mais non, c'est pas épouvantable. Écoutez un peu. Si tu te lèves tard, tu ne verras pas le soleil se lever, ça c'est sûr, mais ça n'empêchera pas de se lever. Et si tu ne pries pas, tu ne remarqueras même pas la présence de Dieu avec toi, bien que Dieu est toujours avec toi. Voilà la vérité. C'est bon d'entrer dans la prière parce que ce n'est pas simplement pour démontrer la sagesse infiniment variée de Dieu, mais c'est aussi pour entrer en communion avec Dieu, pour être près de Dieu, pour être avec. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas près de nous. Mais quand on prie, alors on se met en présence de Dieu consciemment, et puis c'est une bonne chose. Mais si tu ne pries pas, tu ne remarqueras jamais la présence de Dieu avec toi. Prier, c'est le summum. Mais maintenant, prier, c'est bien. Mais prier sans observer ce qui se passe, les choses, les lois de la nature, etc., c'est religieux, c'est idiot, c'est inutile, c'est superstitieux. Et, d'un autre côté, si tu observes seulement ce qui se passe dans ta vie, autour de toi, et les choses, et dans la vie communautaire, si tu fais que d'observer, tu vas commencer à voir des fantômes là où il n'y en a pas. J'ai vu la communauté au bord du gouffre. Sa communauté, pas la nôtre. Et si tu ne fais que prier, tu n'auras pas le temps de faire les œuvres dont le monde a tellement besoin. Tu as la priété aiguë. Ou la prêchité aiguë. Là aussi, il y en a beaucoup qui ont ça. Prier sans observer, c'est un manque d'équilibre. Tant de chrétiens prient pour des choses inutiles. Par exemple, prier pour que nous soyons plus tentés. C'est inutile. C'est même bête. On me dira, bon, mais bien sûr. Une personne qui n'a plus de tentation à vaincre. Une personne qui n'a plus d'épreuves à affronter. Une personne qui n'a plus de défis à relever est une personne qui ne sert à rien. Mais alors, à rien. Si tu arrives au point où tu n'as plus de tentation, plus d'épreuves, plus de défis à relever, plus de problèmes, quoi. Viens me le dire. Je vais prier pour toi, pour que Dieu t'envoie des tentations, des épreuves et des défis à relever. Et si tu surmontes tout cela, je prierai pour toi pour que tu en aies encore, et encore, et encore. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne sommes pas ici-bas pour nous la couler douce. Nous ne sommes pas ici pour rien. Nous avons été envoyés ici-bas pour rencontrer les démons, les charnels, les religieux et les lapins crétins. Nous avons été mis ici-bas pour faire la preuve que Dieu est vainqueur par Jésus-Christ au travers de nous. Et s'il n'y a pas de combat, s'il n'y a pas de problème, ben ça ne sert à rien qu'on soit venu. C'est clair? Notre prière ne doit donc pas être « Seigneur, éloigne de moi le mal. Éloigne de moi ce démon charnel, ce charnel. Éloigne de moi ce religieux. Éloigne de moi ce crétin. » Non, Notre prière doit être « Seigneur, donne-moi la force d'affronter le mal et de le mettre KO. » Voilà, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ça c'est viril. Parce que ça, mes frères et sœurs, ça glorifie Dieu. Ça glorifie Dieu. Ça glorifie Dieu quand on se bat contre une maladie. Ça glorifie Dieu quand on se bat contre une tentation, contre une tendance, contre quelque chose qui nous obsède. Ça glorifie Dieu quand on se bat contre un crétin, contre un démon, contre un esprit visqueux et stupide religieux. Ça glorifie Dieu, il est content. Mais on aime tellement être peinard, tranquille, n'est-ce pas, hein? Et vous savez pourquoi il les a fait passer par la mer Rouge, Dieu? Parce qu'il aurait très bien pu les faire passer ailleurs. Mais si vous lisez le texte, vous allez voir pourquoi. Il dit, si je les fais passer directement là-bas, ils vont rencontrer des ennemis, ils vont avoir la guerre, ils vont se décourager, ils vont repartir en Égypte. Donc je vais les faire passer par ailleurs. Dieu connaît les Juifs, pardon, Dieu connaît les gens, mais les Juifs en particulier, nous, on commence à les connaître aussi. Hein. J'ai lu un article. Ça parlait d'un homme qui a visité un temple bouddhiste. « Ah, Michel, tu nous parles de Bouddha maintenant dans tes prédications. » Écoutez, arrêtez immédiatement d'écouter ce que je vous dis. Si vous pensez des choses bêtes comme ça, ça ne vaut même pas la peine d'écouter plus loin. Vous perdez votre temps. Ça parlait d'un homme qui a visité un temple bouddhiste qui était situé au milieu d'une immense forêt. Et alors, ils avaient construit ce temple-là et juste à côté du temple, il y avait un terrain immense mais en friche. Mais c'est une histoire vraie que je vous raconte là. Et ce voyageur a demandé au moine, mais pourquoi il y a ce terrain en friche juste à côté du temple? C'est pas beau. Mais pourquoi? Et le moine a répondu, c'est le lieu de la prochaine construction. Et il a continué, il a dit, tous les 20 ans, nous détruisons notre temple. Et nous le reconstruisons à côté. Ainsi, les moines charpentiers, les moines maçons, les moines architectes ont la possibilité de toujours exercer leurs capacités et de les enseigner par la pratique aux plus jeunes. Par là, nous montrons que rien n'est éternel et que même les temples sont dans un processus de perfectionnement constant. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. De temps en temps, il faut prendre des pètes au casque. Ça fait du bien. Ça nous permet de lutter, de montrer comment on fait aux autres. Pas seulement aux démons, mais aux anges aussi, et puis aux frères et sœurs, et puis aux lapins crétins. J'ai trouvé cet article très adapté à ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Nous ne sommes pas dans ce monde, c'est clair. De plus en plus, nous sommes dans le monde de Dieu. Mais quand même, on est encore un peu dans ce monde. Hein. Il faut se rappeler simplement que nos règles de vie viennent d'un autre monde. Heureux celui qui découvre les règles de vie de cet autre monde et qui les met en pratique. Les ennemis que nous avons, nous les aimons. Je les aime. Vous allez me dire, t'es un hypocrite, Michel. Non, je vous promets, je les aime. Parce que c'est une règle du monde d'où nous venons et où nous retournons. Aimez vos ennemis. Eux, ils en sont au point de ne même pas nous dire bonjour quand ils passent à côté de nous. Si on ne leur dit pas bonjour, ils passent comme si à côté d'une vache. Voilà. Ils ont les règles de ce monde, pas nous. Nous les aimons, mais nous ne faisons pas alliance avec eux. Ça, c'est aussi une règle du monde d'où nous sommes venus et où nous allons retourner. Ces ennemis, nous les aimons, non pas parce qu'ils sont aimables, pas charriés, mais parce que Dieu les a placés sur notre chemin pour que nous puissions mettre notre épée à l'épreuve. c'est-à-dire la parole vivante qui est dans nos cœurs. Nos ennemis méritent donc le respect de notre combat, de notre lutte. Sans eux, on n'aurait pas ce combat. Ben, ce serait ballot. Hein. Qui aurait préféré que ça n'arrive pas, tout ce qui arrive ? Moi, au début, j'aurais préféré que ça n'arrive pas. Maintenant, j'en suis au point de dire, mais c'est super. Jésus est notre chemin. Mais il nous faut du courage sur le chemin pour que le chemin se manifeste. Vous voyez, nous avons décidé de ne pas être de simples chrétiens, mais des disciples. Et en faisant ce choix, nous avons choisi une manière collective d'adorer et de partager les mystères. Cependant, chacun de nous est seul responsable de ses actes sur le chemin. Nous n'avons pas le droit de faire porter à notre religion la responsabilité de nos décisions. Pensez-y, vous ne devez pas faire parce que Michel a dit. Je vous ai toujours prêché ça. Je vous ai toujours dit ça. Je vous le redis encore, mais d'une façon un peu différente. Quand on a compris ça et qu'on se met à vivre ça, alors on décrète la fin du mur qui sépare le sacré du profane. À partir de là, tout est sacré. Tout est sacré. Mes frères et sœurs, je suis différent des autres serviteurs de Dieu, des religieux. Tout le monde le dit, ça doit être vrai. En Afrique, ils rigolent, ils se marrent, ils disent « Mais toi, tu craches la vérité, tu, c'est incroyable. » ils m'aiment bien à cause de ça, bien que je les tracasse un petit peu parce que je vais contre leurs idées reçues, mais ils aiment ça parce qu'ils voient que c'est la vérité, c'est scripturaire, c'est dans l'esprit. Je suis différent des religieux et je fais mon possible pour rester différent. Vous savez, Camélia, Théum, ma maman spirituelle, la gitane, elle disait, il n'y a qu'une Camélia, si j'en trouve une deuxième, je la tue pour rester toute seule. Il n'y a qu'un Michel Jonton, vous allez dire, ouf, heureusement. Ouais. Vous avez raison. Quand j'ai pris la décision de céder la place au prophète, entre guillemets, au pasteur, en décembre 2014, quand je leur ai dit, bon ben, puisque vous ne voulez pas racheter les parts, puisque vous ne voulez pas nous vendre vos parts et que vous voulez rester là et construire une communauté là, bon, ben, je vois qu'une solution, c'est de vous laisser la place, je m'en vais. J'ai exercé une vertu. Ma capacité de choisir. Et je vais vous dire quelque chose d'intelligent, parce que la religion, ça rend bête, mais la véritable foi dans la véritable parole de Dieu, ça rend intelligent. Celui qui n'utilise pas cette vertu, c'est-à-dire cette possibilité, cette capacité de choisir, il transforme cette vertu en malédiction. Vous allez me dire, mais pourquoi, comment ? Ben, je vous explique. Parce que c'est les autres qui vont choisir à leur place. Comment je choisis de partir ? Ben, celui qui fasse. Ils sont obligés de subir ce qui va arriver. Puis c'est tout. Ils n'ont pas pris de décision. J'ai pris une décision. Je suis le pasteur, j'ai le droit de prendre les décisions. Comment diriger le troupeau? Et ceux qui ne sont pas du troupeau, ben voilà, tant pis. Quand on me dit, je ne te fais pas confiance, bon ben, tu ne me fais pas confiance, tu n'es pas du troupeau. Quand il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'amour. Alors pourquoi rester là? Donc j'ai décidé de partir. J'ai donc exercé une vertu, ma capacité de choisir, et celui qui n'utilise pas cette vertu transforme cette vertu en malédiction, parce que s'il fait ça, c'est les autres qui vont prendre les décisions, qui vont choisir à leur place. Est-ce que vous comprenez mieux ce que signifie la glorieuse liberté des enfants de Dieu ? Ce n'est pas juste une jolie phrase. La glorieuse liberté des enfants de Dieu, c'est de se mettre en marche même si on ne voit pas le chemin. Il est là. Le chemin, il est là, même si vous ne voyez pas. Et les Juifs, ils ne voyaient pas hein, le chemin, ils voyaient la mer. La mer qu'on voit danser. C'était pas joli, hein, c'était horrible, ils avaient peur, ils criaient, ils pleuraient. Maintenant, je suis pas fou. Je sais que moi, comme tout être humain, j'ai droit à deux bénédictions. J'ai le droit à la grâce de viser juste et j'ai droit à la grâce de me tromper. Je sais, par 48 ans de vie commune avec Jésus, ça va faire 48 ans le 1er juin, c'est bientôt là, hein. Envoyez-moi des cadeaux, j'adore ça. Je sais, par 48 ans de vie commune avec Jésus, que si je me trompe, il existe un apprentissage qui va me conduire sur le bon chemin. Parce que sa miséricorde durera toujours. Donc même si je me trompe, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est jamais grave. Le peuple face à la mer, il voyait pas le chemin et il criait. Dieu dit, quand tu ne vois pas le chemin, mets-toi en marche. Ça permettra au chemin de se manifester. Je préfère écouter Dieu que les cris de ces pauvres juifs qui se plaignaient entre les portes dans le désert. La réussite, elle est toujours précédée par l'humilité, par l'épreuve de la foi et par la décision de marcher de l'avant, même si on ne voit pas le chemin. Toujours comme ça, ça a toujours été comme ça. Dans tous les domaines, financiers, dans tous les domaines. Regardez par exemple la loi de la dîme. Eh bien, c'est une loi. Jésus n'a jamais dit qu'il ne fallait pas donner la dîme. Bien au contraire, il a dit, vous les pharisiens, malheur à vous, parce que vous donnez la dîme, mais vous ne faites pas ça, 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 et ça, et ça. Il fallait donner la dîme et faire tout le reste. Il ne dit pas qu'il ne faut pas faire, il dit pas qu'il faut pas donner la dîme. Mais eux, là, ils sont tellement contents de ne pas donner la dîme qu'ils se servent de ce verset. Le tordant pour ne pas donner la dîme. Ils font semblant de ne pas comprendre. Ce n'est pas possible qu'ils soient bêtes à ce point-là. Enfin, peut-être qu'ils sont belges. Peut-être, Marc. C'est vrai, ça existe aussi. Hein. Mais la dîme, c'est des fois difficile de donner la dîme. On se dit, oh, mais comment on va faire? Alors, si je donne la dîme, c'est énorme la dîme. C'est beaucoup la dîme. C'est le dixième de mon revenu. Comment je vais faire si je donne le dixième de mon revenu? Déjà que j'ai de la peine avec ma petite retraite, déjà que j'ai de la peine avec mon petit salaire, comment je vais faire? Mes frères et sœurs, tous ceux qui obéissent et qui le font avec une bonne intention dans la foi, la mer rouge s'ouvre devant eux. La bénédiction s'ouvre devant eux. Le chemin s'ouvre devant eux. Oui ou non? Qui peut me donner un amen? Amen. Voilà pourquoi nous donnons la dîme. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, afin qu'il y ait des possibilités de pouvoir aider des pauvres, afin que l'Église puisse tourner, afin que c'est tout à fait normal. Et en plus, ça nous attire la bénédiction. Voilà. Mais c'est un pas de foi très souvent. Et Jésus, il honore ça. Il honore même, regardez la petite veuve, elle a donné plus que la dîme, elle a donné tout ce qu'elle avait. Bon, on en parle encore 2000 ans après de cette bonne femme-là. Mais c'est même pas son nom. Mais n'empêche que, voilà, Jésus l'a trouvée formidable. Il n'a pas dit, oh non, petite vieille, t'exagères, t'es fanatique, garde ça, j'ai jamais demandé d'en faire autant. Non, il l'a admirée. Et on en parle encore. Au temps de Moïse, marcher en direction de la mer, c'était du jamais vu, c'était du jamais fait. C'est tout à l'honneur des Juifs de l'avoir fait. C'est tout à leur honneur. Paul, ce Juif aussi, lui aussi, avait ce sens de l'honneur. Dans Romains 15, 20, il est dit qu'il mettait un point d'honneur de ne pas construire sur les fondations posées par d'autres. Je crois que ce Juif-là, Paul, n'aurait pas voulu construire quelque chose au château sanctuaire, là où Michel et Michel Janton avaient posé des fondations. Ce juif-là, il avait le sens de l'honneur, lui. En tout cas, nous, ce que nous allons faire dans 27 jours, c'est de l'inédit. C'est de l'inédit. C'est une mission, c'est quelque chose. Aucun chrétien évangélique n'y a jamais pensé. Je me suis renseigné, j'ai regardé. Tout le monde nous dit, ah, la communauté, ah, c'est extraordinaire. Il y en a d'autres? Non, je ne crois pas. Non, oui, je ne sais pas. Non, on n'a jamais vu des comme la nôtre. Mais là, ce qu'on va faire, c'est tellement encore inédit. Ils vont dire, mais comment il peut avoir des idées pareilles, le Genton, hein? Comment ça se fait qu'on n'y a pas pensé avant? Ils vont tous, enfin pas tous, parce qu'il y en a ça, ils vont dire, oh non, c'est trop dur. Mais c'est de l'inédit. Nous avons un problème derrière nous, nous avons un problème devant nous, mais devant nous se trouve le chemin qui commence à se manifester. Mettons-nous en marche. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus de permettre que cet exemple, notre exemple, puisse bénir aussi d'autres personnes qui sont sur Internet et qui ont un problème quelconque. Mais tous les problèmes ont des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et tu es notre solution. Tu es le chemin qui se manifeste lorsque nous nous mettons en marche. Pas quand nous sommes là prostrés dans la prière ou prostrés dans l'observation de la mer. Non, quand nous nous mettons en marche. Je te prie, Père, dans le nom de Jésus, que chaque personne, chaque homme, chaque femme, chaque enfant doué d'intelligence puisse comprendre cela, et tant pis pour les autres. Merci, Seigneur, de renouveler chacun et chacune. Dans le nom de Jésus, mon Seigneur. Amen. Amen. Ça va? Vous êtes contents? Ça vous a fait du bien? Ben moi aussi. Amen. À bientôt, mes frères et sœurs.